9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Le monde ne suffit pas.
Qu'est-ce qui se passe ?
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans LMNSP, Le Monde ne suffit pas, l'émission d'actualité internationale de Transistor, qui vous offre aujourd'hui sa 5e édition. Nous avons le cœur serré aujourd'hui, chers auditeurs, à l'idée que c'est la dernière émission avant Noël. Mais bien sûr, nous reviendrons en 2011 plus motivés que jamais.
Et pour ce 5e numéro, Rémi, nous partirons en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Rémi et moi-même sommes allés à la rencontre de Boris Gobi, maître de conférences en sciences politiques à l'École normale supérieure de Lyon, pour revenir en détail sur l'épineuse question des élections qui viennent d'avoir lieu et qui ont tout l'air de plonger le pays dans une crise politique majeure.
Oui Antoine, et comme d'habitude, nous tenterons d'élargir un peu notre réflexion pour mieux cerner la vie politique du pays, qui n'est pas toujours facile à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire, sans oublier les liens que noue le pays avec sa région, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi les liens qu'il noue avec la France.
Mais avant tout cela, nous retrouvons bien sûr la revue de presse et Thibaut qui est avec nous depuis Paris. Thibaut, tu nous reçois 5 sur 5 ?
Eh oui, Lyon, ici Paris, je vous reçois parfaitement bien et je vous propose avec Antoine une revue de presse spéciale Wikileaks aujourd'hui.
Eh bien, puisque tout le monde est là, ou presque, on y va.
Et pour cette revue de presse consacrée à Wikileaks, je voudrais profiter de ma présence à Paris pour vous parler de notre capitale à travers le point de vue de diplomates américains dans le cadre de la lutte antiterroriste. Comme vous le savez, le journal Le Monde est autorisé à dépouiller et publier les télégrammes détenus par Wikileaks, ce qu'il commence à faire depuis quelques jours. Entre autres, on peut lire un télégramme daté d'avril 2005 dans lequel un diplomate américain écrit que l'ambassade des États-Unis à Paris concentre, je cite, « un des plus grands nombres de représentants d'agences gouvernementales américaines ». Et il ajoute « plusieurs de ces agences jouent un rôle dans les relations remarquablement étendues entre les États-Unis et la France en matière de sécurité et de contre-terrorisme ».
Ah donc Thibaut, pour une fois, les Américains disent du bien des Français.
Du bien, oui Antoine, ils en disent, mais le télégramme pointe aussi des faiblesses françaises, notamment dans les plans d'urgence en cas d'attaque terroriste meurtrière. Je cite le même télégramme. « Les Français peuvent être assez irritables lorsqu'on leur donne l'impression qu'ils ont besoin d'être entraînés et mieux vaut éviter de leur donner des rôles de preneurs de décision. Selon le diplomate américain, il faudrait plutôt se concentrer sur des échanges professionnels et inviter les Français à observer des exercices de simulation organisés par le gouvernement des États-Unis. Mais malgré tout, l'entente est plutôt bonne. Dans un article intitulé « Wikileaks, comment Washington voit la lutte contre le terrorisme en France », Le Monde rappelle que si, depuis que la France a refusé de participer à la guerre en Irak, les relations diplomatiques avec les États-Unis se sont tendues, en revanche, la coopération policière et judiciaire s'est quant à elle largement renforcée. Cette coopération est qualifiée dans un télégramme de « mature et étendue », largement hermétique aux bisbilles politiques et diplomatiques quotidiennes qui peuvent faire de la France un allié souvent difficile.
Donc en fait, la diplomatie américaine dispose en France d'un cadre très propice à la lutte contre le terrorisme.
Oui Antoine, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les agences de sécurité et de renseignement françaises, qui regroupent un personnel très compétent selon les Américains, sont peu contrôlées par les instances législatives. Il a ainsi fallu attendre fin 2007 pour voir la création d'une délégation parlementaire pour le contrôle de ces services. Ensuite, selon les termes d'une note de mars 2005, les magistrats spécialisés dans la lutte antiterroriste opèrent dans un autre monde que celui du reste de la justice. La législation leur permet en effet d'incriminer un individu sans preuve formelle. De simples soupçons suffiraient. Ainsi, le juge Jean-François Ricard aurait confié à des diplomates de l'ambassade américaine qu'il a pu condamner en 2001 les organisateurs d'un attentat visant l'ambassade des États-Unis sans preuve suffisante, mais grâce à la réputation de ces services à qui on faisait tout simplement confiance.
Et ça va même encore plus loin.
Et oui, la correspondance diplomatique publiée indique que plusieurs magistrats de la galerie Saint-Éloi, celle qui regroupe au tribunal de grande instance de Paris les juges antiterroristes, sont en contact régulier avec les membres de l'ambassade américaine et évoquent même sans détour des affaires en cours d'instruction, brisant ainsi le fameux secret d'instruction. Jean-Louis Bruguière est un de ces hommes. Il aurait annoncé en 2005 l'arrestation de suspects dans le cadre d'une filière d'envoi de candidats au djihad en Irak. Autrement dit, une affaire qui intéresse beaucoup les Américains. Le juge Bruguière, qui a brigué sans succès le poste de ministre de la Justice au moment de l'élection de 2007, s'est vu décerner à la fin de la même année le titre d'éminente personnalité européenne par les États-Unis. Petit lot de consolation, en quelque sorte. Et puis pour terminer, je vous donne quand même quelques critiques des États-Unis sur notre système antiterroriste. Il est jugé trop centralisé, à Paris bien évidemment, mais aussi un peu trop variable en fonction de la distance qui sépare la France d'une menace. En d'autres termes, plus c'est loin de l'Europe et moins on agit. Enfin, selon les Américains, nous aurions du mal à gérer la question des minorités dans notre pays et une note d'août 2005 indique que la France, je cite, doit veiller à accorder une place aux musulmans dans l'identité française. Fin de citation. Un point de vue qui ne semble finalement pas dénué de bon sens, comme quoi il y a des situations où les Américains peuvent dire du bien de nous et faire quelques remarques constructives, pourvu que ça dure. En direct de Paris, c'était Thibaut pour Transistor à vous Lyon.
Et nous poursuivons cette revue de presse avec Antoine, qui va continuer sur l'affaire Wikileaks.
Et oui, effectivement, c'est quand même une aubaine pour tous les journalistes et on aurait tort de s'en priver. Donc, parmi toutes les révélations de Wikileaks, certaines ont retenu notre attention. Figurez-vous que l'administration américaine se méfie du président du Conseil italien, Silvio Berlusconi. Alors, comment est-ce qu'il le considère? Eh bien, comme un homme incapable, vaniteux, inefficace et faible à la fois physiquement et politiquement. C'est assez clair. Il est décrit aussi en ces termes. Le jour, il se présente exsangue et las après s'être livré des nuits entières à des fêtes débridées. Encore une fois, c'est très clair.
Oui, mais tout ça, Antoine, jusque-là, c'est pas vraiment un scoop, puisque c'est une critique que toute la presse internationale fait depuis longtemps à Berlusconi et les Italiens les premiers. Donc qu'est-ce que les documents de Wikileaks apportent véritablement?
Bonne question, et c'est là que ça devient intéressant. Ce qui inquiète le plus les États-Unis, c'est la proximité toute particulière entre Silvio Berlusconi et Vladimir Poutine, le premier ministre russe et ex-président russe. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. La Russie, avec son entreprise Gazprom, détient le quasi-monopole du gaz en Europe. Or, l'Italie, avec l'Allemagne, représente presque la moitié des importations de gaz russe. C'est colossal. Et il se trouve que l'ENI, le géant italien de l'énergie, est devenu, aux yeux des diplomates américains, l'instrument des industriels russes. Car sous le second mandat présidentiel de Poutine, ils avaient massivement investi en Italie par le biais de ce géant italien. Les États-Unis voient donc une stratégie politique derrière la stratégie économique. Il s'agirait d'accroître la dépendance énergétique déjà forte de l'Europe à l'égard de la Russie, avec l'espoir pour les Russes, bien sûr, que cette dépendance devienne aussi politique.
Mais attends, Antoine, là, tu dis que les États-Unis créent une alliance politique entre la Russie et l'Italie? Parce que l'Italie est membre de l'Union européenne, donc sa diplomatie est quand même traditionnellement plutôt tournée vers l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, au moment de la guerre en Irak, l'Italie s'est engagée militairement, alors que la Russie s'y opposait.
C'est une bonne remarque, Rémi, et c'est là toute la question. L'administration américaine, justement, craint une évolution de la diplomatie italienne. Les faits sont là, parce qu'en 2008, lors de la guerre entre la Géorgie et la Russie, Berlusconi a affiché une position pro-russe, opposée à celle de tous les autres membres de l'OTAN. Le rapport secret américain soupçonne pour la première fois, je cite, Berlusconi et ses acolytes, d'avoir avec leur interlocuteur russe des relations d'intérêt financier, d'ordre personnel. Et c'est cela qui inquiète les Américains. Ils voient dans l'Italie un pion sur l'échiquier politique en faveur de Poutine, une sorte d'instrument qui va diviser l'Union européenne ou la maintenir divisée. La dépendance, je cite, envers le semi-monopole russe sur le gaz peut mettre chacun des gouvernements européens dans une position qui le rendrait incapable de résister aux demandes politiques de Moscou. Fin de citation.
Mais est-ce que ces craintes sont fondées?
Alors on ne peut pas trancher complètement, mais on peut penser quand même que oui. La crise avec la Géorgie tente à faire penser cela. Et surtout, on sait que Poutine a patiemment construit une stratégie au cours des 8 années de sa présidence une stratégie donc économique favorable au développement du gaz, au point que pour les États-Unis, je cite, « le gaz est devenu un élément central du pouvoir et Gazprom, une entreprise qui par moment s'identifie au gouvernement russe lui-même ». Fin de citation. Donc Berlusconi, en plus d'être l'homme à scandale que l'on connaît, pourrait bien être un danger pour la stabilité économique et l'indépendance politique de l'Union européenne.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Hier, il était donné largement perdant. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, une institution présidée par un proche du président sortant.
Gbagbo Laurent, article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire.
Le Conseil constitutionnel a annulé 7 résultats dans des départements du Nord. Le camp Gbagbo y dénonce des fraudes massives. Pourtant, jeudi, c'est bien Alassane Ouattara qui l'emportait selon la commission électorale indépendante, avec plus de 54% des voix. Dans ce contexte, de nouvelles violences sont à craindre. Un peu plus tôt dans la journée, Alassane Ouattara avait mis en garde le camp Gbagbo contre une tentative de putsch.
Confusion est un mot bien faible pour décrire, à en croire ce reportage de BFM TV, la situation de crise politique en Côte d'Ivoire. Depuis le 3 décembre, ce pays de 322 000 km² et de 18 millions d'habitants, situé en Afrique de l'Ouest, a deux présidents. Alassane Ouattara a été désigné par une commission électorale indépendante avec 54,1% des voix contre Laurent Gbagbo, président sortant. Pourtant, celui-ci revendique la victoire avec 51% des suffrages et il est appuyé par le Conseil constitutionnel qui lui est favorable.
Et pour tenter d'y voir plus clair dans cette situation éminemment complexe, nous recevons aujourd'hui Boris Gobi, maître de conférence à l'ENS de Lyon. Bonjour et merci de nous recevoir, puisque pour le coup c'est plutôt vous qui nous recevez cette fois-ci dans votre bureau.
Merci à vous.
Donc vous avez travaillé sur les élections en Côte d'Ivoire et sur la question de la dépacification de la vie politique.
Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un litige donc entre des institutions, Conseil constitutionnel contre une commission électorale indépendante, et l'on dénonce d'un côté comme de l'autre une manipulation du scrutin. Comment se sont déroulées les élections? Est-ce qu'il y a eu des fraudes? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu des malversations, que ce soit en faveur soit de Ouattara, soit de Gbagbo?
Je crois que le fait majeur de ces élections au départ, et qui est un fait majeur aussi bien pour le premier tour que pour le second tour, c'est le taux de participation qui est exceptionnellement élevé, puisqu'il a été de à peu près 83% au premier tour et à peu près 81% au second tour, si évidemment on n'annule pas les résultats de 7 départements du Nord, comme le Conseil constitutionnel l'a fait. Ça traduit une mobilisation électorale de la population, et à travers cette mobilisation électorale, probablement des attentes très fortes pour sortir d'une situation de crise qui en fait s'est installé depuis 2002, mais qui en fait a des racines plus lointaines, et entrer enfin dans une paix réelle, qui ne soit pas simplement le produit d'accords entre les parties belligérantes, mais le fonctionnement régulier des institutions. Alors, sur le plan des fraudes, visiblement, si je crois que le plus raisonnable, c'est de se reporter aux avis produits par les observateurs étrangers, qu'ils soient de l'Union européenne ou de l'ONU. Parce qu'évidemment, chacun des camps en présence pourra arguer d'éventuelles fraudes. Au premier tour, c'est le camp Ouattara-Bédié, qui ne concourait pas ensemble pour le premier tour, mais qui se sont ralliés, c'est le fruit d'un accord qui existait déjà auparavant, pour le second tour, qui sont alliés au second tour. Ils avaient dénoncé quelques fraudes et avaient demandé un recomptage des bulletins. Et puis finalement, ils n'ont pas voulu entraver le processus qui allait mener du premier au second tour. Et puis au second tour, tout le monde sait que voilà, le camp de Laurent Gbagbo, appuyé par le Conseil constitutionnel, déclare qu'il y a des fraudes. Mais les observateurs étrangers déclarent que les quelques fraudes qu'il y a pu avoir ne sont pas d'ampleur et de nature à dénaturer véritablement les résultats du scrutin, et en particulier les résultats proclamés par la commission électorale indépendante, qui donne assez largement Alassane Ouattara vainqueur, avec 54,1% des voix. Il faudrait vraiment des fraudes extrêmement massives pour que cet écart de 8 points soit effectivement le produit de fraude.
Donc, on a plutôt eu des élections saines, finalement. Pourtant, le pays apparaît aujourd'hui presque au bord d'une guerre civile, puisque dans Le Monde de dimanche dernier, le 5 décembre, Philippe Hugon parle de 3 scénarios possibles, soit une médiation de l'Union africaine grâce à Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain qui était dépêché en Côte d'Ivoire, soit une mise au ban de la Côte d'Ivoire par la communauté internationale, soit un troisième tour dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois issues?
La première, là, d'abord, elle a été déjà mise en œuvre, puisque Thabo Mbeki s'est rendu en Côte d'Ivoire dimanche Donc nous étions le 1, 2, 3, 4, 5 décembre. Il est resté jusqu'au 6 décembre. Il a rencontré les acteurs ivoiriens. Et ça n'a rien donné. On pouvait le parier parce que de toute façon, les camps sont vraiment figés. Il n'est pas du tout question de faire un gouvernement d'union nationale. Ça n'aurait pas de sens dans des conditions comme celle-ci. Et d'autre part, Thabo Mbeki est un médiateur particulier parce qu'il a déjà été médiateur dans la situation ivoirienne entre 2004 et 2006. Et il s'est progressivement rallié aux vues de Laurent Gbagbo, probablement sensible qu'il est à la rhétorique anti-néocoloniale de Laurent Gbagbo. Et les anciens rebelles avaient souhaité qu'il ne soit plus le médiateur. Et d'ailleurs, le dossier lui avait été retiré. Donc de toute façon, c'était perdu d'avance, cette histoire. Alors l'autre issue, c'est pas une issue, c'est quelque chose qui est déjà en train de se produire. C'est-à-dire les pressions internationales qui sont quasi unanimes. Et de ce point de vue-là, il faut souligner... Et je pense que c'est très important, l'implication de l'Union africaine et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDEAO, dans la mesure où ça fragilise la rhétorique anti-néocoloniale de Laurent Gbagbo, puisque oui. Ce ne sont pas seulement des instances internationales, et encore moins françaises, anciennes puissances coloniales, qui s'interposent, mais des instances qui sont proprement africaines. Oui. Ça, je pense que c'est un épisode très important. Je crois malheureusement pas que ça aura le moindre effet sur le président sortant, Laurent Gbagbo. Alors, troisième tour dans la rue, pour le moment, il y a eu 20 morts.
C'est ce que Amnesty International a déclaré il y a quelques...
Voilà. Oui. Sur la base de témoignages, on peut craindre que ce soit un chiffre sous-évalué, parce que on sait par exemple que dans l'attaque, probablement par des gendarmes, du siège du RDR, le parti d'Alassane Ouattara, dans la nuit du 1er au 2 décembre, eh bien, il y a eu 8 morts, mais simplement, ils ont fait disparaître les corps. Oui. Donc, je veux dire qu'il y a très peu de traces qui permettent de comptabiliser de façon fiable. Et puis, la nuit, sous couvre-feu, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Oui. En revanche, ce qui peut être envisagé, et c'est évidemment pas souhaitable, c'est une remise en action des forces militaires. Je veux dire, les ex-rebelles qui tiennent la moitié nord et, évidemment, les forces loyalistes à Laurent Gbagbo. Quoi.
Donc là, vous êtes en train de dire que ce qui risque de se passer, c'est peut-être une réactivation de la guerre civile qui s'est produite déjà depuis une dizaine d'années. Il y a eu donc, à cause de cela, 6 années de report du scrutin présidentiel. Donc c'est seulement en 2010, cette année, que cette élection présidentielle a pu avoir lieu, avec tous les espoirs que ça a soulevé. Donc après 5 ans de guerre civile et de crise économique, le pays avait besoin de solutions. Alors dans ce contexte, est-ce que vous pouvez revenir brièvement donc, sur les raisons de cette guerre civile qui oppose le Nord et le Sud depuis 5 ans? En quoi est-ce que ça a pu jouer peut-être sur le scrutin?
Alors les raisons de cette guerre civile, elles sont extrêmement complexes et sont quasiment pas résumables en quelques phrases. La rébellion, elle éclate le 19 septembre 2002. Elle tente de prendre Abidjan, mais n'y parvient pas. Prend par contre la moitié nord du pays. Ces ex-rebelles se sont formés en réalité au Burkina Faso, c'est à peu près certain, même si ça n'a jamais été officiellement évidemment admis ni confirmé, sur la base de revendications qui consistaient à mettre fin à l'ivoirité, allégation officielle évidemment, et donc à mettre fin au pouvoir de Laurent Gbagbo, qui, tout opposant historique qu'il a pu être au régime de Félix Houphouët-Boigny jusqu'en 1993, la mort de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, père de l'indépendance, n'en a pas moins repris la rhétorique de l'ivoirité lors de son accession au pouvoir en 2000, pour écarter Alassane Ouattara de la concurrence politique. Il n'a fait qu'embrayer là sur un concept qui avait été porté par le régime d'Henri Conan Bédier. Alors c'est là où la situation ivoirienne est extrêmement compliquée à comprendre, parce que vous avez des retournements d'alliance en permanence. En effet, le régime d'Henri Conan Bédier, qui était donc le dauphin constitutionnel de Félix Houphouët-Boigny, et qui donc s'installe au pouvoir en 1993, cherche à écarter Alassane Ouattara, qui avait été nommé Premier ministre entre 1990 et 1993 par Félix Houphouët-Boigny, de la compétition pour la succession du père de l'indépendance, en arguant du fait qu'il ne serait pas vraiment ivoirien, mais en réalité burkinabé, parce que son père y aurait été chef coutumier, etc. Et aujourd'hui, Henri Conan Bédier est allié à Alassane Ouattara. Donc celui qui a fabriqué l'ivoirité, ou qui l'a porté dans le champ politique, est celui qui aujourd'hui est l'allié d'Alassane Ouattara. Il est arrivé troisième au premier tour et s'est rallié à Ouattara pour le second tour. C'est donc compliqué parce qu'à l'époque où l'ivoirité a été construite, c'était Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara qui marchaient de pair. Ils avaient créé un front républicain qui s'opposait au régime d'Henri Conan Bédier. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dès l'époque, Laurent Gbagbo n'était pas très clair sur cette question de l'ivoirité, parce que c'est lui-même dans un contexte de passage au multipartisme en 89-90 et lors des premières élections pluralistes en 1990, en octobre, à l'automne 1990, qui a porté dans le champ politique la question de savoir qui avait le droit de suffrage. Parce qu'effectivement, l'ancien régime de Félix Houphouët-Boigny avait plus ou moins donné le droit de vote, avait de facto donné le droit de vote à certaines populations immigrées venues des pays de la sous-région. C'était interdit par la Constitution, mais admis par la règle électorale. Laurent Gbagbo, dans un contexte devenu pluraliste, en 1990, dit « mais c'est pas, on ne doit pas donner le droit de vote aux étrangers, car c'est du bétail électoral, c'est une façon pour l'ancien parti unique de reproduire son hégémonie dans un contexte devenu concurrentiel, qui est celui du multipartisme. » Donc il est le premier à avoir politisé la question du droit de suffrage, des conditions d'accès au droit de suffrage. Et puis ensuite, la question va se déplacer lorsqu'il y aura la guerre de succession entre Ouattara et Bédié pour le pouvoir d'État, en 1993. Cette fois-ci, la question qui sera posée, ça n'est plus tellement celle de qui a le droit de suffrage, encore qu'elle est évidemment présente en filigrane, mais la question du droit d'éligibilité, qui a le droit de se présenter. Et là, adossé à la fabrication même universitaire du concept d'ivoirité, c'est-à-dire qu'il a des relais dans l'université qui fabriquent le concept d'ivoirité, le président Bédié à l'époque va inscrire dans le code électoral l'obligation pour tout candidat à la présidentielle d'être ivoirien, né de père et de mère ivoirien. Et lorsque la junte militaire sera arrivée au pouvoir en 1999, lors du coup d'État du 24 décembre, accueillie avec joie par une grande majorité de la population parce que ça mettait fin à une situation de tension extrêmement grande. Lorsque le pouvoir militaire arrive, il vient lui aussi au pouvoir pour mettre fin à l'ivoirité officiellement, mais il va progressivement, le général Gay, il va progressivement la réinscrire dans le jeu politique, aidé par Laurent Gbagbo, d'une certaine façon, bien qu'il soit en concurrence, et lors de l'élaboration de la constitution, du référendum sur la nouvelle constitution qui a lieu à l'été 2000, eh bien, il y avait à arbitrer quant à la clause d'éligibilité. Est-ce qu'on allait dire qu'il fallait être ivoirien né de père ou de mère ivoirien, ou né de père et de mère ivoirien? Et ce petit combat autour d'une espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, une conjonction de coordination, je ne sais pas, je ne me souviens plus, c'est des vieux souvenirs, n'a l'air de rien, mais ça avait des conséquences absolument titanesques, puisque le « et » écartait, ou pouvait écarter, et a de fait écarté Alassane Ouattara de la compétition.
D'accord. Donc on voit que le problème, que ce soit la limitation du corps électoral ou le problème de l'éligibilité, le problème des élections se repose de manière systématique dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on voit, par exemple, que Félix Houphouët-Boigny a presque régné sur la Côte d'Ivoire entre 58 et 93, et que son successeur Conan Bédié s'est maintenu de 93 à 99, et ensuite que depuis 2000, Laurent Gbagbo est à la tête du pays sans que jamais vraiment d'élection pluripartite ait eu lieu, on se demande pourquoi, cette fois-ci, les observateurs ont cru que ça marcherait.
Alors, ça c'est effectivement une question importante. Moi j'aurais tendance à dire que c'est parce que c'était le seul jeu qui restait disponible. Tout avait été essayé par ailleurs. C'est-à-dire que la rébellion, puis des accords forcés par la France, il est vrai, les accords de Marcoussi, février 2003, qui évidemment ont été contestés dans la rue par les jeunes patriotes, lancés dans la rue par Laurent Gbagbo, et là sur fond de rhétorique anti-néocoloniale, la médiation africaine, la médiation de l'ONU, tout ça a échoué jusqu'à ce que, en 2007, les belligérants se mettent. Donc, on avait antérieurement épuisé déjà deux ministres de transition ou deux ministres d'union. Puis, en 2007, sous l'égide du président burkinabé Blaise Compaoré, des négociations ont lieu entre toutes les parties en présence, y compris les ex-rebelles, et ils se mettent d'accord pour nommer un premier ministre de transition, un premier ministre d'union, qui est le chef politique des anciens rebelles. Donc avec cette idée que les deux personnes qui s'opposent le plus à ce moment-là vont travailler ensemble, c'est la seule manière finalement d'y arriver. Et comme ça s'est plutôt bien passé depuis les accords de Ouagadougou de 2007, même s'il y a eu énormément de rebondissements, notamment la dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante par Laurent Gbagbo en février dernier, il y avait lieu de croire que ça pouvait fonctionner. Moi j'étais pas très optimiste, parce que depuis le début je suis convaincu que Laurent Gbagbo n'acceptera jamais sa défaite, et d'autant moins que tout un ensemble de sondages qui ont été réalisés par TNS Sofres donnaient Laurent Gbagbo vainqueur. Et ces sondages, en réalité, faire des sondages en Côte d'Ivoire, c'est pas comme pareil que de faire des sondages en France, des sondages de préélectoraux. Et ces sondages ont probablement donné la conviction au camp présidentiel qu'il allait gagner, même parfois, certains sondages disaient, dès le premier tour. C'était oublié, le taux de participation énorme, et puis je crois que simplement la politique ivoirienne est trop complexe pour que des sondages d'opinion fabriqués par un institut français, quand bien même il essaierait de connaître un petit peu la situation sur place, puissent être véritablement fiables. On était un certain nombre à ne pas être très optimistes, mais néanmoins comme c'était le seul jeu qui restait à jouer, il fallait le jouer jusqu'au bout.
Pour essayer peut-être de mieux comprendre les institutions démocratiques, et d'ailleurs en premier lieu celles du système électoral, il faudrait peut-être voir comment est-ce que la vie politique ivoirienne fonctionne. d'Europe, ça semble assez complexe, donc il est difficile de discerner les grandes lignes politiques. On a un Laurent Gbagbo et son parti, le Front Populaire Ivoirien, qui se définissent comme socialistes, mais où situer Alassane Ouattara, qui dirige le Rassemblement des Républicains, et cette question ne date pas d'hier.
Oui, Félix Houphouët-Boigny avait lui-même montré des sympathies pour le communisme au départ, avant de prendre ses distances avec le Parti communiste français en 1946. Donc, du coup, hier et aujourd'hui encore plus, comment lire ce paysage politique? Et très simplement, est-ce qu'on pourrait distinguer une gauche et une droite?
Bah, j'allais justement dire qu'on ne pouvait pas regarder le champ politique ivoirien avec la grille de lecture française gauche-droite. Effectivement, Laurent Gbagbo et le FPI se revendiquent socialistes. Laurent Gbagbo, tout jeune, à la fin des années 60, était presque marxiste d'une certaine façon et anti-impérialiste. Je crois qu'il, du point de vue du programme social, il se revendiquerait probablement de la gauche. Mais le problème, c'est que ce programme social a assez largement disparu derrière une rhétorique qui est ethno-nationaliste, ce qui fait qu'on ne peut plus le considérer comme un socialiste véritablement. Il y a quelques socialistes français qui continuent à le considérer comme un socialiste, mais c'est très difficile de raisonner en ces termes-là. Quant au rassemblement au RDR et au PDCI, on pourrait être tenté de les classer à droite, mais sauf que la base populaire du RDR, la base électorale du RDR, elle est tout aussi populaire que la base électorale du FPI. Ça n'a pas véritablement de validité. La tentation de le classer à droite, c'est parce qu'Alassane Ouattara a eu une première carrière de haut fonctionnaire dans les institutions internationales comme le FMI, où il a été aussi un des acteurs des plans d'ajustement structurel. Puis en tant que Premier ministre, il a appliqué les recettes du FMI entre 90 et 93, notamment la réduction drastique des dépenses publiques, etc. etc. Au terme de quoi il s'est mis à dos le monde enseignant, hein, c'est une partie de la fonction publique, etc. Oui, mais en réalité, les programmes ne sont pas véritablement distincts. Enfin, on peut pas dire qu'il y a un programme de gauche et un programme de droite. Il y a du côté d'Alassane Ouattara, il y a eu une prise de conscience au moment de cette élection qu'il y avait tout à faire en matière de lutte contre la pauvreté et puis de redressement économique de la nation.
Du coup, si on cherche une autre clé de lecture, une clé qui est assez souvent convoquée par les analystes, c'est celle de l'ethnicité. C'est vrai qu'en simplifiant beaucoup, voire très grossièrement, on se représente plutôt Laurent Gbagbo comme le candidat du Sud, catholique, et Alassane Ouattara comme le candidat du Nord, avec des populations plutôt musulmanes, et marqué par des influences sahéliennes. Et en remontant un peu plus dans le temps, la présidence de Félix Houphouët-Boigny a pu être interprétée comme la période de la domination de son ethnie, l'ethnie baoulé. Est-ce que vous pensez, Boris Gobie, qu'une telle lecture est pertinente, ou sous quelles conditions elle pourrait l'être ?
Alors, je pense que il faut être très, 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 très précautionneux dans l'usage de catégories comme l'ethnie. Et même du point de vue religieux, vous avez dit Laurent Gbagbo catholique, il n'est plus catholique, il est évangéliste. Je sais qu'un certain nombre de médias présentent ça comme un conflit ethnique, voire même comme un conflit quasi religieux, c'est-à-dire entre un nord musulman et un sud chrétien. C'est pas vrai, c'est tendanciellement vrai, mais dans le nord, vous avez des Sénoufos qui sont chrétiens. Oui. Dans le sud, vous avez aussi des musulmans, parce que c'est oublié que sur 18 ou 20 millions d'habitants, ou 21 millions d'habitants, il y a une fraction, quasiment un quart, qui habite à Abidjan, qui est la métropole du sud, la capitale économique du pays. Et alors là, ça se mélange, puisque ce sont des logiques urbaines qui sont des logiques de mixité, de métissage, même s'il y a des tendances de quartier, etc. Donc, il faut vraiment abandonner cette grille de lecture. Ça ne veut rien dire que de dire qu'il y a opposition entre un nord musulman et un sud chrétien, ou une opposition en termes ethniques. Alors, sur l'ethnicité, je pense qu'il faut vraiment dire que personne n'a jamais rencontré une ethnie. Personne n'a jamais discuté avec une ethnie. L'ethnicité est en réalité un fait de conscience, c'est-à-dire que ça n'a pas d'ancrage objectif. Simplement, on peut trouver des gens qui se reconnaissent comme appartenant à une ethnie. Alors dans ce cas, ça devient un fait de conscience, et de fait, ça peut avoir des effets, puisque ça produit, puisque c'est inscrit dans les représentations, que ça peut produire des pratiques et des actes.
Et du coup, ce fait de conscience peut provenir de causes très diverses. Ça peut même être un phénomène politique, la revendication de l'ethnicité.
Oui, mais c'est encore une fois très compliqué, parce que là, vous avez une association... Une alliance politique entre l'ex-parti unique, le PDCI d'Henri Colombédier, et le RDR d'Alassane Ouattara, qui de facto est une alliance entre des populations du Sud et des populations du Nord, si on considère qu'elles sont derrière, que les bases géographiques sont solides. D'autre part, et ça c'était quand même un enseignement vraiment intéressant, et c'est vraiment dommage que ça tourne mal pour le second tour, les résultats du premier tour étaient assez intéressants du point de vue de l'électorat de Laurent Gbagbo. Quand vous regardez l'électorat de Laurent Gbagbo, En tout cas, grossièrement, au niveau des régions qui ont voté majoritairement pour lui au premier tour, vous avez un électorat, vous avez peut-être l'électorat le plus transethnique, d'une certaine façon. Oui. Alors, au deuxième tour, ça n'est plus le cas, puisque, de fait, l'alliance entre le PDCI et le RDR fait que l'électorat du second tour pour Ouattara est encore plus transethnique. Mais encore une fois, utiliser le terme même de transethnique n'a pas tellement de validité. Simplement, effectivement, l'électorat de Laurent Gbagbo était un électorat assez moderne, ou du moins, il y avait quelque chose d'une modernisation dans le sens où ça semblait transcender un certain nombre de clivages géographiques, en tout cas entre l'Est et l'Ouest, un peu moins entre le Nord et le Sud, même si dans la province Nord, tout à fait au Nord-Est, il a obtenu la majorité au premier tour. La majorité simple au premier tour. C'est dommage que il n'ait pas capitalisé sur cet électorat-là.
Justement, sur ces notions d'ethnie qui sont pas forcément convaincantes, en tout cas ici, mais qui se posent quand même, je voudrais juste rappeler que la Côte d'Ivoire est donc une ancienne colonie française, son territoire ne recoupe pas forcément des populations homogènes. On voit donc un territoire assez morcelé. Et vous avez parlé justement de cette création de l'ivoirité par Colin Bédier. Donc ma question ce serait, est-ce qu'il faut voir dans cette notion de l'ivoirité seulement un processus d'exclusion électorale, on pense à Alassane Ouattara, et dans ce contexte de morcellement de la population, est-ce qu'on peut envisager que la Côte d'Ivoire est une démocratie sans nation unifiée?
C'est compliqué. Je pense réellement que la Côte d'Ivoire a un sens en tant que nation, non seulement aux yeux de l'extérieur. Les Ivoiriens sont très identifiés comme Ivoiriens dans les autres pays de la sous-région. Mais ça a un sens évidemment pour la population elle-même. Se revendiquer Ivoirien, ça veut dire quelque chose. Donc il y a vraiment un processus de construction nationale qui, à mon avis, s'il n'y avait pas eu des clivages politiques très forts qui ont instrumentalisé des divisions, qui à mon avis donc aurait produit une nation véritablement alors unifiée, vous savez c'est très compliqué, une nation unifiée on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas il y a une construction nationale en Côte d'Ivoire, c'est certain, qui a plus ou moins réussi. Évidemment, quand vous attisez les divisions, vous finissez par les rendre plus grandes qu'elles n'étaient au départ, donc vous pouvez refragmenter un pays qui avait connu un processus quand même de construction nationale. D'ailleurs, les tenants de l'ivoirité au départ, ils disent que c'est une façon de problématiser l'identité nationale ivoirienne et de transcender la question des ethnies. Oui. Sauf qu'évidemment, dès le départ, et ça se voit dès les premiers écrits en réalité, il y a une rhétorique de l'autochtonie qui a quand même à voir avec cette idée que des peuples sont plus originellement là que d'autres. Des populations plus originellement là que d'autres, qui seraient donc plus ivoiriennes que d'autres.
On arrive à quelque chose de très paradoxal, puisque cette notion qui devait être rassemblée, la nation ivoirienne, se retrouve appropriée par une ethnie et finalement sert comme instrument d'exclusion.
Alors, c'est pas une notion qui est appropriée par une ethnie, c'est une notion qui est appropriée par des hommes politiques qui s'en servent dans un combat politique pour exclure l'adversaire. Ça a été d'abord le camp Henri Conan Bédier, c'est désormais le camp, et ensuite ça a été pour un bref moment, mais un moment absolument critique et intéressant, le général Guéhi, et puis ça a été ensuite Laurent Gbagbo. Donc c'est quelque chose qui est approprié, c'est un instrument de domination politique et de division politique, d'écrasement d'adversaires, qui est un instrument proprement politique. Donc je pense qu'il faut vraiment le situer à ce niveau-là. Et puis pour revenir sur le fait qu'au départ, c'était un concept qui était destiné à transcender les ethnies et à évoquer la construction nationale ou la construction d'une identité nationale ivoirienne, c'est quand même très contestable. Ça, c'est la rhétorique, c'est la façon dont ceux qui ont fabriqué l'ivoirité, qui l'ont conceptualisé, se défendent après coup en voyant les résultats que ça a eu. Ils disent mais au départ, c'était quelque chose au contraire qui était pour fabriquer de l'unité et pour transcender les ethnies. Quand vous regardez les textes originels, la rhétorique autochtoniste, elle était très très fortement présente dès ce moment-là. Et il faut aussi dire que la rhétorique de l'autochtonie est quelque chose qui a été extraordinairement employé dans certains pays africains post-multipartisme. Car c'était souvent le moyen de restaurer pour l'ancien parti unique son hégémonie sur le pays. En contexte concurrentiel, il faut inventer de nouveaux instruments de domination politique. On n'a plus les moyens de la politique du ventre, comme on disait. On ne peut pas acheter ses opposants, on ne peut pas les faire manger dans la main du pouvoir, comme on dit. D'autant plus qu'à ce moment-là, il y a un contexte de crise économique très forte et de crise financière de l'État. Il faut inventer d'autres instruments. Et là, l'instrument en question, ça a été l'ivoirité. Le problème, c'est qu'on aurait très bien pu dire que pour statuer, c'est la nationalité qui va compter. Donc on va regarder les cartes d'identité. Le problème, c'est que, pour des tas de raisons historiques qui seraient très compliquées d'expliquer, la délivrance administrative des cartes d'identité est frappée au sceau du soupçon, parce que il y a eu, par le pouvoir lui-même, des distributions de cartes d'identité fallacieuses populations venues d'autres pays de la sous-région, mais qui travaillaient en Côte d'Ivoire, en 1990, précisément pour augmenter le socle électoral de l'ancien parti unique. Partant de là, toutes les cartes d'identité sont suspectes d'une délivrance sous forme de passe-droit, et donc il n'y a pas de critère arbitral reconnu par tous pour la détermination des frontières de la nationalité. Alors a fortiori, pour déterminer les frontières de l'éligibilité. Et du coup, le fait qu'il n'existe pas de critère arbitral fait plonger dans l'arbitraire, puisque ensuite on va essayer de trouver l'argument de l'origine. Mais l'argument de l'origine, on peut régresser à l'infini sur l'argument de l'origine. C'est un argument qui peut que produire de la division.
Mais au-delà de cette ivoirité restrictive, vous nous avez dit tout à l'heure que vous pensiez vraiment qu'une construction identitaire ivoirienne était possible.
En tant que nation.
Oui, en tant que nation.
Je pense. Je pense parce que de fait, au-delà de sa diversité, il y a malgré tout des repères culturels communs. Il y avait pendant très longtemps, et il y a probablement toujours, des mariages mixtes, des gens qui se connaissent, qui travaillent entre eux, qui sont du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais qui vont se repérer et s'identifier comme ivoiriens, en tout cas pouvaient ou pourraient le faire si, dans des contextes de tension, on n'activait pas les divisions et on n'attisait pas les divisions régionales, géographiques, etc. Donc je pense que malgré tout, oui, la Côte d'Ivoire, ça a un sens, ça veut dire quelque chose en tant que nation. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus.
Donc, construction identitaire, nationale en tout cas, en marche. On voit donc que malgré tout, il y a une certaine mosaïque de religion, de langue en Côte d'Ivoire qui ne recoupe pas les frontières, parce qu'il y a des unités linguistiques qui dépassent la Côte d'Ivoire, qui s'intègrent dans la Côte d'Ivoire. Et donc est-ce que là, ces groupes communs à plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, peut créer un jeu d'influence des voisins en Côte d'Ivoire?
D'abord, toute nation est poreuse. Il n'y a pas de nation homogène. Alors, et d'ailleurs, on peut vraiment s'en féliciter parce que du coup, ce serait des ethno-nations. Mais il n'y a pas de nation homogène ou parfaitement homogène, même du point de vue linguistique. Même un État très fortement centralisé qui a écrasé ses langues régionales comme la France a des langues régionales. Et puis le français est parlé ailleurs qu'en France, etc. C'est la langue nationale d'autres pays. Donc, toute nation, c'est pas un fait africain, ça. C'est peut-être plus un fait africain du fait d'un héritage colonial, d'un découpage de frontières qui a souvent, pas toujours, mais souvent été purement administratif ou lié à des intérêts à un moment particulier, etc. Mais néanmoins, c'est vrai de toute nation. Toute nation se construit sur une base qui n'est que du disparate et consiste à fabriquer de l'unité. Malgré tout, est-ce que ça a des influences sur... Enfin, est-ce que ça détermine des jeunes influences dans la sous-région? Oui, puisque... en partie, on peut considérer par exemple que, effectivement, quand vous lisiez la presse burkinabé en 2000-2002, ils s'inquiétaient beaucoup du sort qui allait être réservé aux ressortissants burkinabés, comme on dit, qui travaillent en Côte d'Ivoire, parce que ce sont des gens qui envoient aussi de l'argent à leur famille restée au Burkina Faso. Donc le Burkina pouvait avoir un intérêt à intervenir. Il a eu d'ailleurs un intérêt à intervenir en tant que médiateur, mais on sait aussi que la rébellion a été conçue probablement au Burkina Faso, alors avec l'aval des autorités, c'est pas du tout certain, mais il n'est pas du tout certain non plus que les autorités n'aient pas été au courant. Ça, on ne le sait pas. En tout cas, on ne peut pas le trancher de façon absolument connue par tous. Donc, il y a des jeunes influences, évidemment, mais ces influences, elles ne sont pas seulement liées à ça. Hein. Ce n'est pas seulement lié à la diversité, au fait qu'il y a des populations qui sont à cheval, par exemple, sur le nord de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, etc. C'est aussi tout simplement l'espèce d'externalisation des guerres. Le Libéria a une frontière commune avec la Côte d'Ivoire qui est assez importante. C'est un pays qui a connu une guerre civile absolument effroyable. Et on sait qu'il y a des anciens combattants libériens qui ont fait le coup de main dans l'ouest de la Côte d'Ivoire au moment en 2002-2003. Et on dit aujourd'hui que il y a des accusations, en tout cas du camp Ouattara, selon lesquelles Gbagbo serait tenté de recourir à nouveau à des espèces de mercenaires ou miliciens ou anciens combattants libériens. Donc ça, c'est le problème, effectivement, des instabilités qui se communiquent ou qui, par des jeux de population, par les populations qui se déplacent ou par des mercenaires qui sont en roue libre, comme ça, peuvent avoir des impacts sur d'autres pays. Mais ça dépasse le strict problème, effectivement, de la diversité linguistique.
Oui, c'est plus complexe. Et au-delà de cette sous-région d'Afrique occidentale, s'il y a bien un pays qui semble avoir des liens étroits avec la Côte d'Ivoire, c'est son ancien colonisateur, la France.
Oui, Rémi, l'ancienne colonie française de Côte d'Ivoire était le poumon économique de la sous-région
et la vitrine des relations franco-africaines qui s'était nouée dès avant l'indépendance proclamée le 7 août 1960 par une collaboration étroite donc entre les élites françaises et Félix Houphouët-Boigny qui était alors ministre de la 4ème République. Il avait d'ailleurs même fait le choix de rester dans le giron français contre l'option de la rupture anticoloniale et panafricaniste promue par exemple par ses voisins ghanéens et guinéens.
Et aujourd'hui, ces relations existent toujours, puisque dans la zone tampon entre le nord et le sud du pays, depuis les affrontements qui ont commencé en 2002, 6500 des 10 000 soldats de l'ONU sont français. Et en 2003, les négociations entre ces deux parties en guerre civile ont eu lieu en France, à Marcoussi. Donc Boris Gobi, on voit que la France reste très présente en Côte d'Ivoire. Quels sont ses intérêts dans le pays ?
Alors, ces intérêts sont extrêmement importants. Les entreprises françaises représentent une proportion du PIB ivoirien qui est vraiment très très importante. Je ne sais plus si c'est 30 ou 40%. Donc, évidemment, il y a des intérêts économiques très forts. Alors, est-ce que ça détermine une prise de position politique ? Je n'en suis pas complètement certain parce que l'intérêt de la France, ce serait que les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'il y ait une stabilité électorale, à la limite qu'elle soit sous la présidence de Gbagbo ou la présidence d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, derrière sa rhétorique anti-coloniale et anti-néocoloniale, principalement dirigée contre la France, évidemment, puisque c'est l'ancienne puissance coloniale, et que la France a figé le front, en quelque sorte, entre le Nord et le Sud en 2002-2003, eh bien, a des pratiques qui sont en fait des pratiques assez accueillantes pour l'implantation des entreprises françaises. Il a continué à servir, d'une certaine façon, les intérêts des entreprises françaises, que ce soit la gestion de terminaux pétroliers ou de terminaux du port, etc. Donc c'est vraiment... il n'y a pas du tout un candidat qui serait opposé aux intérêts économiques de la France et un candidat qui serait favorable aux intérêts économiques de la France. On dit d'ailleurs même que Alassane Ouattara serait plus ouvert à l'implantation d'autres entreprises, enfin d'entreprises qui viendraient d'autres pays, etc., non exclusivement françaises. Bon, c'est déjà le cas de toute façon. Mais franchement, je crois que l'intérêt économique de la France, c'est plutôt qu'il y ait stabilité politique. C'est aussi un intérêt pour la sécurité des Français qui résident encore sur place. On sait, c'est une autorité publique, il y a des sympathies entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara. Je ne crois pas que ça détermine la prise de position politique de la France aujourd'hui. Ça l'influence peut-être un peu, mais je pense que c'est vraiment une prise de position qui, d'ailleurs, vous avez remarqué, est intervenue plus tard que les prises de position de l'ONU et de l'Union européenne. Il fallait d'ailleurs, parce que sinon la France aurait été encore accusée d'ingérence. Voilà, je pense que c'est une histoire assez compliquée, cette histoire-là aussi, parce qu'il y a probablement des acteurs de sous-main qu'on ignore et qui, effectivement, vont essayer de servir les intérêts français sur place. Mais en l'occurrence, il faut se garder de l'idée que les pratiques de Laurent Gbagbo sont les pratiques qui vont à l'encontre des intérêts économiques français. Depuis quelques années, c'était pas l'idylle, mais ça a marché quand même très bien. Et Laurent Gbagbo a fait appel pour un certain nombre de marchés à des entreprises privées, a été accueillant à l'égard des entreprises françaises. Donc l'intérêt, à mon avis, des entreprises françaises, c'est vraiment la stabilité, que ce soit sous la présidence de Ouattara ou sous la présidence de Gbagbo.
C'est vrai que la France a de nombreux intérêts économiques, notamment en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, est le premier producteur de cacao au monde. Ça fait la richesse quand même du pays. On a parlé à un moment de miracle économique de la Côte d'Ivoire, si vous faites Boigny. Mais dans les années 90, il y a une baisse des cours mondiaux du cacao et du café, ce qui provoque une crise de l'économie de rente fondée sur l'exportation des produits tropicaux. On est alors tenté d'examiner les liens entre l'économie et politique en Côte d'Ivoire, puisque la crise économique coïncide à peu près avec un début de crise politique aussi.
On sait aussi, par exemple, que cette même économie de plantation a pu grandement favoriser l'émergence des baoulés, qui sont traditionnellement des planteurs et qui ont mis ça en avant, donc leur émergence sur la scène politique. Est-ce que ce système économique, qui est aujourd'hui en crise, pourrait constituer une force d'inertie contre la modernisation politique, selon vous ?
Contre la modernisation politique, pas nécessairement. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un télescopage des crises économiques et des crises politiques en Côte d'Ivoire. La crise économique, elle démarre avant, elle démarre dans les années 80. Vous avez des plans d'ajustement structurel au début des années 80, d'ailleurs, qui échouent. Ça a comme conséquence que l'État est privé d'une partie de ses ressources et donc privé d'une partie des moyens de la politique du ventre, comme on dit. Évidemment, du coup, il y a une paupérisation d'un certain nombre de populations. Il y a aussi une saturation des écosystèmes ruraux. Il y a une saturation foncière, parce que les emplois publics, les emplois industriels, enfin les emplois urbains, même de manière plus générale, sont aussi en crise. Donc du coup, il y a toute une jeunesse qui ne trouve pas d'emploi, qui revient, fin des années 80, début des années 90, qui revient au pays, hein, c'est-à-dire mais qui ne peut pas cultiver la terre ou s'approprier la terre parce qu'elle est déjà cultivée, et puis de toute façon il y a une saturation économique. Et ça a attisé évidemment des conflits autour de l'appropriation de la terre, qui existait déjà, mais qui était sectorisée, alors que là, ça va, ils sont rendus encore plus intenses et tendus à cause de la crise économique, et ceci croise la crise politique. Et du coup, effectivement, il y a un enchevêtrement de facteurs qui est véritablement explosif, parce que du coup, il ne s'agit plus de distribuer la rente. La question n'est plus comment on distribue la rente au plus grand nombre pour assurer la paix sociale, c'est comment est-ce que, enfin, à qui on fait porter le chapeau de la pénurie. Et du coup, ça attise évidemment les tensions, en particulier du côté, à mon avis, de la jeunesse, parce que voilà une jeunesse qui ne trouve pas facilement d'emploi, qui va se déraciner dans les villes et puis qui va se radicaliser.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Boris Gobi, pour ces quelques clés pour comprendre cette crise politique et même au-delà. Et ça se révèle quand même bien plus complexe qu'on ne le croit à première vue. Donc, je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'ENS et que vous avez notamment travaillé donc pour l'Association française de sciences politiques sur la question de la dépacification en Côte d'Ivoire. L'article s'appelait « Comment la stabilité politique se défait-elle ?» donc sur les années 90 à 2000.
Et comme d'habitude, cette émission était préparée et animée par Antoine, Thibault et Rémi. À la technique, il y avait François, Jocelyn et bien sûr Xavier. Merci à eux.
Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes réjouissances de fin d'année. N'abusez pas des bonnes choses, profitez des bulles avec modération et donnons à Paris le mot de la fin.
Eh bien, merci à tous, surtout à vous, Rémi et Antoine. Et espérons que, contrairement à vos cadeaux, jamais votre monde ne vous suffira. Noyeux Joël, les Lyonnais, à bientôt.